chrétien à l'extérieur, puisqu'il est philosophe. Il est au département de philosophie et il enseigne l'histoire des sciences et l'histoire et la philosophie des sciences à l'université de Harvard. Alors, pour le présenter un peu plus, je dirais d'abord que nous avons le plaisir de l'avoir comme professeur invité pour 3 mois à l'École supérieure, invité par le département de physique et de philosophie, et qu'il fait un séminaire régulier à l'école que certains d'entre vous suivent peut-être sur, en gros, la question de l'image et de l'objet scientifique. Je dirais aussi, comme vous allez vous en apercevoir bientôt, que Peter Galison parle fort bien le français, il va faire sa conférence en français. Il a d'ailleurs une formation en grande partie en France, à l'École Polytechnique, je crois, non ?
Un an.
Un an, mais il en a de belles séquelles, si j'ose dire, puisqu'il parle remarquablement français. Et je signalerai, parmi ces nombreuses publications et ces nombreux livres, j'en signalerai deux parce que ils ont donné lieu à une édition française. Un livre de 2002 paru aux éditions La Découverte, qui est la traduction de How Experiments End, comment s'achèvent, ainsi s'achèvent les expériences, n'est-ce pas, avec une nouvelle préface pour l'édition française en 2002, c'est bien cela. Et un livre qui est paru en 2003 à New York et qui est paru chez Robert Laffont, je crois, en 2005, qui s'appelle L'Empire du Temps, les horloges d'Einstein et les cartes de Poincaré. Et c'est autour de cette question que nous allons l'entendre aujourd'hui. La raison pour laquelle nous avons choisi avec lui ce thème, c'est parce que la série qui s'appelle Position et Argument est centrée normalement autour des questions liées au temps, et nous avons voulu qu'il y ait un clin d'œil entre ces deux sous-séries, et que, du point de vue de l'histoire et de la philosophie des sciences de la physique, Peter nous parle du problème du temps tel qu'il s'est passé au début, tel qu'il s'est posé au début du XXe siècle dans la physique contemporaine. Je le remercie encore, je lui passe la parole.
Et merci. Je voudrais parler aujourd'hui du temps, surtout dans la relativité restreinte, et pas forcément de la théorie en sa totalité, enfin pas de l'histoire de la relativité dans sa totalité, mais surtout sur ce problème du temps, la mesure du temps, le temps comme quelque chose qui devrait forcément être défini à travers les opérations, comme ont été développés le concept chez Poincaré et Einstein. En général, la problématique qui m'intéresse dans l'histoire des sciences, c'est de suivre, de reconsidérer un peu le problème de périodisation, d'organisation des continuités et des ruptures dans la science. Et c'est surtout l'histoire de la science au début du XXe siècle jusqu'à peut-être les années 60 avait l'idée qu'il y avait une tranche de la science, une espèce de niveau continu qui existait toujours avec l'observation. Et les observations devaient être une base bien formée qui montrerait une science, qui définirait une science qui pourrait éliminer complètement la métaphysique. Donc pour les positivistes, ils trouvaient que la théorie était secondaire, la théorie organisait les observations, mais les théories viennent et partent, et les observations retenaient ce niveau continu. Dans les années 60, il y avait un mouvement qui était juste le contraire pour inverser cette idée, c'était que la théorie était la base de tout ce qu'il y avait dans la science, et l'observation, par contre, répondait à la théorie. C'était les théories qui pourraient définir ce qui peut être observé et comment ce qui est observé peut être interprété. Et le langage et perception devraient changer en bloc. L'idée, c'était comme des changements de gestalt, et et pas tellement comme des atomes de signification, des atomes d'observation, comme voulait, par exemple, Carnap et ses alliés du cercle de Vienne. Ils ont mis, par exemple, des expériences des psychologues de Gestalt, par exemple, comme en voyant des cartes comme ça, si on attend, on s'attend au noir, on voit pas, on interprète les rouges comme si c'était noir. Et comme des figures très connues entre lapin et canard, on pouvait seulement avoir des parties de cette image, des observations existaient hors de concept en sa totalité. Il n'y avait pas de ligne neutre. Il y avait seulement des lignes qui faisaient partie, soit du canard, soit du lapin. Et c'est ça un peu l'idée qu'il y avait pour la science en général, qu'il n'y avait pas d'observation neutre, comme voulait Carnap. Il n'y avait que des observations sous la direction d'une théorie ou d'une autre théorie. Donc, ils avaient comme schéma de périodisation des blocs ou des théories, par exemple, définissent des domaines d'observation, et des observations changent complètement de signification à chaque fois qu'on a un changement de théorie. Dans l'exemple de la relativité restreinte, on peut suivre l'histoire de l'interprétation de l'histoire de relativité à travers ces deux schémas. Par exemple, c'était très habituel avant la Deuxième Guerre mondiale de regarder, même après, dans les années 50, de regarder l'histoire de relativité comme s'il y avait une suite, une série d'observations qui montraient avec une précision de plus en plus qu'il n'y avait pas d'éther, qu'on ne pouvait pas détecter le mouvement de la Terre ou des observateurs à travers l'éther. Et donc, pour ces auteurs, par exemple Whittaker, Einstein n'était qu'une espèce de limite asymptote qui a montré ou qui a résumé le résultat, l'orientation de cette suite d'observations qui était de plus en plus précise. À sa place, dans les années 60, avec Thomas Kuhn, Hansen, Hesse, Holton et plein d'autres, il y avait juste l'idée contraire, de faire une histoire de relativité à travers la théorie. Et qu'il voulait dire, il n'y avait pas d'expérience qui forçait le changement, il n'y avait même pas d'expérience qui pourrait occuper une zone neutre entre toutes les théories. Par contre, il n'y avait qu'un changement de gestalt qui sautait de l'époque de Newton, par exemple, jusqu'à une époque einsteinienne. Et comme disait à maintes reprises Kuhn, c'est une espèce de changement de langage total. Quand on allait du langage de Newton avec ses absolus de l'espace et du temps, et on allait directement alors on parlait plus en changeant de Newton à Einstein de l'espace ou temps comme dans le sensorium de Dieu, et on commençait à parler seulement des règles et des horloges. Et donc, pour eux et pour cette époque de l'histoire et de la philosophie de la science, dans les années 60 et 70, c'était surtout un cas de renverser le système et de montrer, et maintenant je précise un peu le dernier diagramme de périodisation, maintenant on avait la théorie newtonienne qui détermine les observations newtoniennes, et puis pareil pour le système Einstein. Et c'était un changement quasiment instantané et sans possibilité d'avoir recours à un langage de protocole, comme disaient Neurath et Carnap. Il n'y avait que deux langues et une langue passée à l'autre à la suite. Les problèmes avec des périodisations qui sont faites comme ça avec des blocs sont plusieurs, mais on peut voir par exemple quelques-uns ici. Si on fait en physique une périodisation de 1900 découvert des quantas par Planck, 1905 avec la relativité restreinte à Einstein, 1915 avec la relativité générale, 1926 avec la mécanique quantique, etc. Ça peut être très utile en organisant nos idées sur la théorie, mais ça sert à presque rien pour comprendre l'histoire d'instrumentation ou des expériences. 1905, par exemple, n'est pas une rupture dans l'histoire des expériences. Il n'y avait pas grand-chose qui s'est passé dans 1905 avec la théorie de relativité restreinte dans le domaine des expériences. Deuxièmement, il y a des langages des chercheurs changent pas tous. Tout à fait, en totalité, il y a des parties de langage qui changent et des techniques qui donnent un sens de continuité pour des chercheurs très souvent. Et qu'on peut dire que le langage scientifique ou le langage de la physique change ni dans une façon atomisée, enfin dans les phrases atomiques ou des observations atomiques, ni en totalité, mais en accumulant, en passant dans une espèce de fragments de langue qui existent, par exemple, un peu pareil au changement qu'il existe entre de langues contemporaines, à la frontière entre l'allemand et le français, ou entre le français et l'anglais, ou en forme des jargons, ou des pigeons, ou des créoles qui existent entre ces langues. Et donc, pour avoir un peu plus de possibilités et pour de reconnaître le fait que la communauté, surtout en physique, se divise pas tellement, qui n'est pas du tout homogène, il y a au moins trois couches, si on veut, la théorie des instrumentations et la communauté des expérimentateurs. Et c'est pas forcément le cas que ça change en même temps. Ça ne forme pas des blocs en général. C'est possible qu'il y ait, à un certain moment, un changement qui aligne entre, par exemple, les instruments et les expériences. Mais en général, ce qu'on trouve, c'est que, par exemple, si on est en train de faire des expériences, ou si on est en train de vérifier, de travailler sur une théorie du point de vue des expériences, on ne veut pas changer les instruments et les expériences au même moment qu'on change la théorie. Ça mettrait tout en question au même temps. Donc, il y a, prima facie, un effort de ne pas changer toutes les communautés au même temps et de ne pas homogénéiser les changements ou les ruptures et continuités dans le développement de la physique. Alors, on arrive finalement sur le point de la direction même de ce que je veux présenter ce soir. Et c'est sur cette idée de coordination des horloges et l'idée de temps local qui était essentielle pour Lorentz, pour Poincaré et pour Einstein. Et pour Lorentz, la question c'était pour lui, est-ce que c'était formellement possible d'avoir une correspondance plus ou moins, pas exacte, mais plus ou moins, entre la forme des équations de physique dans un référentiel ou d'un autre. Et il a trouvé qu'il pourrait mettre ces équations sous à peu près la même forme s'il faisait une espèce de changement de variable. C'était un changement qui était purement formel, qui n'avait pas de signification physique, en remplaçant chaque fois qu'on voit un T pour le temps avec T moins Vx sur C carré, où C c'est la vitesse de la lumière, X c'est la distance entre deux points, et V c'est la vitesse entre les deux référentiels. Alors pour lui, c'était un simple changement de variable, un simple moyen formel de regarder des équations pour que ce soit à peu près le même dans les champs différents. Pour Poincaré, et je vais aller plus profondément dans un moment, mais c'est juste pour schématiser un peu où on va, il travaillait pas seulement aux profondeurs des mathématiques et de la physique, mais il était aussi au Bureau des longitudes à Paris, où il était même président trois fois pendant sa vie. Il a travaillé en détail avec des problèmes de longitude et déterminer les longitudes. Les longitudes semblent très pas philosophiques, mais en fait c'était un problème qui était très important à l'époque pour déterminer la carte du monde et pour des problèmes essentiels aussi d'astronomie et beaucoup d'autres domaines aussi. Et je reviens pour montrer un peu pourquoi ce travail était tellement essentiel à ses idées sur le temps. En 1898, Poincaré a employé l'idée de coordination des horloges pour définir en principe, d'un point de vue purement philosophique, qu'il a publié dans la Revue de métaphysique et de morale, une définition de simultanéité qui venait de son travail ou qui partageait une idée de simultanéité avec son travail au Bureau des longitudes. Et ça croisait les idées des instruments, des techniques d'une part et de philosophie d'une autre. Et puis en 1900, en décembre, Poincaré a commencé à expliquer ce qui était seulement un changement de variable, quelque chose de formel dans la physique de Lorentz, et de le mettre, de donner cette idée une base de physique. Et à ce moment-là, la même idée de coordination des horloges, avec un échange du signal, était essentielle pour à la fois la technique, pour faire des cartes, pour faire la philosophie, définition du temps, et pour faire la physique à la Lorentz. Now, George Gamow, le physicien nucléaire, parmi autres choses, a toujours mis des avertissements quand il avait quelque chose qui présentait un danger. Et donc, j'en prends cette idée de Gamow pour vous avertir à trois dangers dans l'interprétation de ce que je vais dire. D'abord, ce n'est pas une histoire de la relativité totale, parce que la relativité en général, parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas d'histoire unifiée de relativité en général, et justement parce que c'était une combinaison d'idées qui venaient de très loin, comme le principe de relativité, que la physique devrait être la même dans les référentiels différents, qui datent au moins jusqu'à Galilée, et peut-être beaucoup loin dans l'histoire que ça. Il y a des théories d'éther qui étaient importantes pour ceux qui faisaient l'électrodynamique dans le 19e siècle. Il y avait des théories de l'électron et de la nature de la matière. Mais ce n'est pas parmi toutes ces idées que je veux travailler aujourd'hui, mais je veux concentrer notre étude sur la coordination et définition du temps et simultanéité. Ce n'est pas une histoire non plus réductionniste, c'est-à-dire que ce n'est pas un argument pour réduire la théorie à un simple fonctionnement de machine. Ce n'est pas un argument qui est structuré comme base et superstructure pour expliquer quelque chose dans le domaine des idées à travers et basé uniquement sur les machines. Par contre, je vous montrerai comment les trois chemins, si on veut, les trois trajectoires de philosophie technique et physique se croisaient autour de cette idée de coordination du temps à travers l'échange de signal entre les horloges. Donc, je vous montrerai comment des fragments de travail, des idées, des concepts qui existent à l'intersection font partie de trois intersections de trois chemins différents, de trois trajectoires historiques différents. Et finalement, j'ai aucun intérêt finalement à la question est-ce que c'est Einstein ou Poincaré qui a découvert la relativité. Par contre, je veux montrer qu'ils avaient tous les deux des idées différentes de la modernité de la physique et comment on peut identifier et comprendre cette idée. Je sais que il y a des personnes qui se passionnent pour cette question. Est-ce que Poincaré a vraiment découvert la relativité ou est-ce que Einstein a vraiment? Ben, c'est pas mon problème. Et c'est pas le problème, je crois, que de notre génération. C'est un problème qui date de long. Ok, je commence avec Poincaré juste pour vous montrer dès le départ de son travail quand il était étudiant. D'abord à l'École Polytechnique et puis comme avant et après, les meilleurs étudiants de Polytechnique passaient très souvent à l'école des mines et ils étudiaient les mines et surtout ce qu'il y avait avec les mines de charbon. Et ça, c'est une lettre que j'aime bien, qu'il a écrite à sa mère. Et vous voyez deux genres de cartes qu'il a fait. La carte ici représente une carte qui représente son bateau en Scandinave où il cherchait des mines. Et puis ici, il a fait, comme il a très souvent fait, il a fait des graphes sur n'importe quoi qui l'intéressait, par exemple ici, sur l'histoire de sa santé dans un chemin de fer hier. hier soir, ce matin, maintenant, etc. Il a fait des trajets, il a fait des graphes de quand il était enrhumé et plein d'autres choses. Et après son travail à l'école des mines, il a travaillé dans les mines comme inspecteur de mines. Et il est arrivé un jour en 79 dans une mine où il y avait une horrible explosion qui a tué beaucoup de mineurs. Et il est descendu tout de suite avec d'autres gens pour donner du secours. Et ça l'a traumatisé. Il en a parlé pendant toute sa vie, même dans les mémoires posthumes qu'il a fait. Il a fait des petits dessins d'une lampe d'avis que je vais décrire dans un moment. Ce qu'il a fait pour comprendre pourquoi il y avait l'explosion, il a tracé les flux de l'air qu'il y avait dans le système de tunnel, dans les mines, et il a tracé le problème jusqu'à un certain point où il a trouvé une lampe qui était en métal avec des petits trous pour laisser la lumière sortir, mais pour ne pas laisser la flamme entrer en contact avec les gaz explosifs qui peuvent, comme méthane, méthane dans les mines. Mais un des mineurs avait frappé par accident cette lampe et la flamme était mise en contact avec le gaz et la mine a été sautée en l'air. Quelques semaines après, il continuait toujours son travail en mathématiques. Et une de ses idées les plus importantes, c'était une façon de décrire les trajets des planètes ou les astéroïdes autour du Soleil en simplifiant le problème énormément. Et c'était surtout important pour un des plus grands problèmes de l'époque, c'était le problème des trois corps. Et ce qu'il a fait, il a pris une section. Et puis, à chaque fois que la planète traverse la section, ça coupe un trou, et on peut tracer le trajet des trous. Alors, au lieu d'étudier le problème en trois dimensions, on simplifie le problème pour étudier simplement le progrès des trous. Et il a écrit un mémoire là-dessus pour un concours qu'il y avait sous le nom du roi suédois Oscar II, avec les juges qui étaient Hermit, Metag-Leffler, Weierstrass, et les mathématiciens étaient très fiers. Hermit était un de ses anciens professeurs, un collaborateur aussi. Ils étaient très, très fiers. Poincaré a gagné le concours, tout était en ordre, il deviendra très important à travers ce victoire. Mais au dernier moment, un petit éditeur, Acta Mathematica, a posé une question écrite à Poincaré pour demander il y a un petit cas que vous n'avez pas résolu, peut-être vous pouvez le faire dans une petite note, c'est si il y a des axes stables où les points deviennent de plus en plus proches, ou des axes instables où les trous deviennent de plus en plus lointains l'un de l'autre, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des croisements de ces deux axes? Et Poincaré a commencé à penser là-dessus et il s'est rendu compte que tout ce qu'il a écrit était faux et que la phrase qu'il a choisie comme épitaphe, on dit, épigramme, était que toutes les planètes restent dans leur lieu, dans leur place, était faux parce que ce qui se passerait dans le cas où les axes se croisaient était qu'on aurait un problème chaotique et c'était le début du chaos dans la mathématique, la physique mathématique. Mais, et donc c'était très gênant pour Hermite et Metag-Leffler qui était en train de publier cet article comme grand succès. Et ils ont écrit à Poincaré, mais il faut le résoudre vite, et puis on fait des petits changements. Et Poincaré a dit, non, mais vous ne comprenez pas, ce n'est pas un petit problème, il faut vraiment développer un nouveau essai. Et ils ont dit à Poincaré, non, c'est vous qui ne comprenez pas, nous avons publié l'article sous le nom du roi, et sous le nom d'acte mathématique, et nous allons être complètement humiliés dans le monde mathématique si c'est complètement faux ce que vous avez dit. Alors il a dit, je fais ce que je peux. Il a réécrit l'essai complètement en abandonnant complètement l'idée que les planètes suivaient des trajets stables. Donc ça, c'était pour quelqu'un qui se pensait, qui se trouvait vraiment au centre d'un monde stable, régulier, qui pensait vraiment au bout de ses doigts que le monde était stable, il a trouvé une instabilité absolument essentielle dans le monde. Il a laissé la phrase « les planètes restent dans leur place », mais c'était contredit par tout le reste du mémoire. Et Weierstrass a dit... vous savez, en Allemagne, on ne fait pas des choses comme ça. mais ça montre aussi le fait que Poincaré était absolument convaincu que le monde était, dans une certaine façon, stable, compréhensible. Mais du moment où il se sent forcé d'abandonner certains de ses vues, il était prêt à le faire. Il était prêt, c'était pas un réactionnaire qui absolument pas voulu, laisser passer une physique qui pourrait contredire l'idée de stabilité. Il était prêt quand même à décrire un système, quoi qu'il était convaincu que le monde physique et mathématique devrait être compris d'un point de vue visuel. Ces trajets instables n'étaient pas du tout visualisables. Mais dans la fin des années 70, il y avait un grand mouvement pour réanimer le problème de kilogrammes et de mètres qui était lancé à l'époque de la Révolution française. Et on a construit ça, c'est une des machines que je préfère dans le monde. C'est une machine qui s'appelle comparateur universel, où on met quelque chose ici à gauche et ça produit une copie de la même longueur à droite. Et c'était employé pour créer des copies du mètre échantillon, un échantillon mètre qui était mis dans ce paquet. Et il y avait des kilogrammes. On a choisi un kilogramme et un mètre pour être les bases du nouveau système. Et ils ont fait toute une assemblée, une convention de représentants de plusieurs pays qui sont venus à Paris pour enterrer ces échantillons pour que ça devienne les standards du monde. Et chaque pays a reçu leur échantillon qui était calibré par rapport à K de kilogramme qui est K de kilogramme qui est là, qui était choisi à hasard parmi tous les autres, et M qui est le nom du maître échantillon. Et puis il y avait des témoins. Ça, c'est des témoins ici qui devraient témoigner avec leur corps si quelque chose ne se passait au vrai cas, s'il y avait par exemple un feu ou des changements de concentration d'oxygène ou autre chose. Et il y a des témoins qui étaient enterrés aussi avec M. Et finalement, ils étaient tous prêts à faire la cérémonie, qui était une espèce de cérémonie quasi religieuse, mais enlevée de toute trace religieuse, mais quand même, c'était les objets les plus fabriqués, les plus exacts du monde, qui devraient être maintenant soulevés vers l'universel. Mais il manquait une des cinq clés pour fermer la boîte, la chambre, et les représentants de l'État disaient, bon, c'est pas de problème, on pourrait parler avec le ministre du Commerce qui pourrait donner une copie de la clé. Mais les représentants des autres pays disaient, non, on n'est pas en France, on est dans un espace universel et nous, on n'est pas là pour parler français de l'intérieur. On voudrait seulement parler avec le ministre des Affaires étrangères. Alors il fallait 5 ou 6 heures pour que... On pouvait ramener le ministre des Affaires étrangères pour donner la cinquième clé pour enfermer et pour que la cérémonie continue. Et les chercheurs étaient tellement frappés par le succès de cette convention qu'ils ont voulu standardiser aussi le temps. Et à la rue du Télégraphe, ici à Paris, il y avait sous terre de l'air sous pression et une horloge standardisée qui devrait distribuer le temps sous les rues de Paris, sous les tuyaux automatiques. Et on pouvait, c'était possible d'acheter des horloges comme ça qui devaient recevoir les signaux des pressions, des coups de l'air qui venaient de la rue du Télégraphe, qui était branchée à l'observatoire astronomique, à l'observatoire de Paris. Et il y avait aussi au même temps, et c'était important dans un certain sens pour notre histoire, parce que au début, enfin pour beaucoup du 19e siècle, des gens se passaient complètement, même des aiguilles qui montraient des minutes, parce que des choses n'étaient pas tellement exactes. Mais après quelques années avec ce système automatique de distribution du temps, des gens par exemple qui habitaient près de la Tour Eiffel se sont rendus compte que le signal prenait à peu près quelques secondes, 15 secondes, 20 secondes pour arriver chez eux. Donc leurs horloges devraient être en retard de 15 secondes du reste de Paris, et c'était pas du tout, c'est devenu pas acceptable. Ils ont forcé les ingénieurs de venir et changer le fonctionnement de ces horloges pour que ça fasse une compensation pour le délai qu'il y avait à cause de la vitesse du son pour que le signal arrive. Et c'est important parce que c'est la même idée de ce qui se passait avec des quantités, des durées de temps beaucoup, beaucoup moins dans le domaine électromagnétique, mais quand même, ça donnait une idée, les données circulaient de comment il fallait faire avec la coordination des horloges. Avec la méthode américaine qui était introduite en 1877, ils ont mis, par exemple, des contacts électriques, télégraphiques entre un centre, et puis quand le signal arrive, ça marquerait sur comme un sismographe sur une machine, et on pourrait voir précisément quand le signal arrive en mesurant la distance entre des points de repère qui sont produits par une horloge locale et le signal qui arrive de loin. Et ça a permis, par exemple, de coordonner pour la première fois la distance qu'il y avait entre l'Europe et les États-Unis. Ils ont essayé pendant des centaines d'années d'avoir une mesure exacte entre côte est des États-Unis et l'Angleterre, par exemple, la France. Et c'était seulement après la guerre civile aux États-Unis en 1865 que c'était possible d'avoir un câble sous-marin télégraphique. Et la première chose qu'ils ont faite avec ce câble, c'était de lancer un signal de l'heure pour qu'ils puissent avoir une mesure exacte de la carte du monde. Et il y avait tout un débat qui circulait autour de l'idée de coordination des horloges. Il y avait des systèmes mondiaux comme ça, qui devraient avoir, une seule heure pour tout le monde. Il y avait d'autres qui voulaient, par exemple, une heure pour chaque pays, par exemple, que les États-Unis soient unifiés sur l'heure de Washington. Il y avait d'autres qui voulaient garder le système où chaque ville avait son propre temps. Mais pour des trains, c'était presque quasiment impossible. Une fois qu'on ait des trains qui traversent des longitudes extrêmes, par exemple en Russie ou aux États-Unis ou au Canada, ça devient de plus en plus compliqué. Au début, ils ont pris simplement le temps de la grande ville où est l'origine de la ligne du train. Par exemple, de Paris, on prend les premières zones de temps étaient à peu près 1 mètre de large et 1000 kilomètres de long. C'était les voies des trains qui étaient des zones de temps. Et par exemple, entre Marseille et Paris, ou entre New York et Chicago, ou entre autres villes, il y avait un temps qui existait le long de la voie. Mais le problème, c'était que quand les voies se croisent, il y a des multiplications du temps et ça devient rapidement impossible de savoir où et quand on était dans le temps. Alors, en 1883, il y avait une réunion où les grands entrepreneurs de train ont pris un vote et ont décidé de diviser les États-Unis dans les sections, basées sur le méridien de Greenwich. Et les trains ont voté. On a autant de votes qu'on avait kilomètres de voies. Donc, un entrepreneur comme Stanford a pu voter 3000 fois. Et c'est ce qui a précipité, pas loin après, un grand débat, surtout entre Paris et Londres, parce que les Anglais voulaient naturellement ils trouvaient que c'était naturel d'avoir le zéro de longitude à Londres ou à Greenwich, plus précisément. Et Paris trouvait que Paris serait quand même un très bon endroit pour le zéro de longitude. Et il y avait un très vif débat qui était là. Les Français voulaient qu'il y ait une réunion avec tous les pays, un vote bien fait, organisé, pour choisir de nouveau. Et les Anglais ont voulu plutôt qu'il y avait des rapports bilatérales. Vous voyez un peu un rapport avec les débats plus récents, peut-être. Mais finalement, les Anglais ont dit... Non, écoutez, nous avons 90% des clients qui emploient nos cartes, et c'est quand même idiot de changer de système. Et les astronomes français ont répondu, mais on ne va pas décider une question de science sur les clients. C'est une question philosophique, ce n'est pas une question de commerce. Et Janssen, l'astronome qui était représentant à cette réunion, a soupçonné, et il avait raison aussi, que tout était corrompu et que les Anglais et les Américains ont plus ou moins acheté des votes des petits pays. Des rapports avec le présent peut-être aussi pour une autre fois. Et puis à la fin de la réunion, des astronomes français ont proposé finalement, non, nous avons perdu tous les votes. Notre système rationnel pour avoir le zéro de longitude dans l'étroit de Bering a été anéanti par les Anglais, pas raisonnable. Mais finalement, est-ce que vous pouvez au moins nous laisser explorer la possibilité d'avoir un système de mesure de temps décimal, comme on avait à l'époque de la Révolution de l'an 2? Et Poincaré a pris ce comité en charge. Et il a fait comme il a toujours fait, il a fait un comité de ceux qui, des gens de la gare, des navigateurs de bateaux, des astronomes, des physiciens. Et il a examiné plusieurs systèmes, par exemple, si c'était mieux de diviser le cercle en 100 parties, en 200 parties, en 400 parties, en 240 parties, par exemple, où chaque heure devrait être divisé en 10 parties ou en 360 parties, le système qu'on a maintenant. Et Poincaré trouvait que c'était complètement ridicule d'avoir 365 jours écart dans un an, puis des mois avec un nombre différent, avec des heures, avec 60 minutes, avec des secondes divisées en décimales. Enfin, c'était un système complètement inhomogène et pas du tout raisonnable. Et finalement, il a trouvé que il a examiné tous ces systèmes, il a des tâches différentes qu'il fallait faire avec ça. Il a trouvé qu'il n'y a qu'un système où la multiplication n'aurait qu'un chiffre significatif. Donc, pour lui, c'était un fait objectif que le système le plus simple était de diviser le cercle en 400 parties, ce qui était bien parce que ça peut correspondre au système de la Révolution française. Mais ça donne aussi une idée de ce qu'il a en vue quand il parle de ce qu'il y a de convenable dans la physique. Ce n'est pas puisqu'il pense qu'on peut faire n'importe quoi, c'est qu'il n'y a pas un choix qui est donné par la nature, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour nous est objectif. C'est-à-dire que On peut choisir des systèmes différents, mais il n'y a qu'un système où il n'y a que multiplication par un chiffre. Donc, ce système est choisi comme le plus simple d'une façon objective. Et c'est ça que beaucoup de gens dans l'histoire de la philosophie n'ont pas compris chez Poincaré. Pour lui, c'est vrai qu'on avait toujours un choix, il y avait toujours des conventions, il n'y avait rien hors convention dans la physique. Mais en même temps, il y avait des questions, par exemple, de simplicité qui étaient objectives. C'était un fait objectif qu'une équation du deuxième ordre était plus simple qu'une équation du cinquième ordre. Mais comme directeur du bureau des longitudes, il y avait des astronomes militaires qui sont partis un peu partout dans le monde, des Américains, des Anglais, des Français, des observateurs de... Ce ne sont pas des choses sur les montagnes, ce sont des petits trucs en bois comme ça, avec des hommes avec des casques qui marchaient souvent dans des endroits très dangereux. Il y en avait plusieurs qui sont morts, parmi lesquels deux amis de Poincaré. Et c'était un concours qui était à la fois pratique, il fallait des cartes pour navigation, aussi pour des besoins militaires, mais c'était aussi une espèce de prise symbolique du monde. Et qui pourrait faire la carte le plus vite de l'Amérique du Sud, ou de l'Afrique, ou du Vietnam, avait, dans un certain sens, conquis ces territoires. Et il y avait plusieurs routes de câbles de télégraphe qui étaient employées, par exemple, par les Français, par le Bureau des longitudes, pour identifier la longitude exacte de Dakar et Saint-Louis au Sénégal, où ils étaient en train de lutter d'une guerre coloniale. Et ils ont employé le fort ici pour... tirer sur les étoiles pour déterminer exactement la latitude et longitude et de prendre des câbles sous-marins pour déterminer la différence de temps précise entre Paris et Dakar. Il y avait aussi une expédition où Poincaré était le rapporteur à l'Académie des sciences sur l'expédition à Quito pour répéter des expériences qui ont été faites, des observations qui ont été faites pendant la Révolution et après sur la forme de la Terre. Et ça aussi, ils ont traîné des câbles sous-marins. Et il faut apprécier cet exercice comme quelque chose d'extraordinaire. Dans un monde où il n'y avait pas de pouvoir électrique, on avait des signaux électriques qui venaient de 500 kilomètres de loin. Quand le signal est arrivé au Brésil, par exemple, l'empereur de Brésil est descendu à la plage pour, comme il a dit, voir l'arrivée du temps européen sur le continent. Donc c'était important. Et pouvoir, l'importance en physique ou philosophique pour nous, c'était à chaque moment, par exemple, ça c'est une observation complètement typique de 1892, c'est le temps de transmission. C'était important pour cette mesure de faire un aller-retour, un signal aller-retour, Paris-Brésil-Paris par exemple, pour mesurer le nombre de secondes, la fraction d'une seconde que prenait le signal pour arriver au Brésil. Parce que si on envoie un signal à midi de Paris et ça prend comme ici 23 millièmes d'une seconde pour arriver au Brésil, il faut que les horloges au Brésil soient mis pas à midi, mais à midi plus 23 milliards de secondes. Millièmes de secondes. Et donc, en janvier 1898, Poincaré écrit un article qui s'appelle « La mesure du temps ». Dans la revue de métaphysique et de morale, et il a commencé par dire qu'est-ce qu'on veut dire par simultanéité. Si deux télégrapheurs qui veulent se coordonner pour avoir une mesure de longitude veulent le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il faut envoyer un signal, mais il faut prendre en compte le fait que si ça prend par exemple une seconde pour arriver, il faut que l'horloge éloignée devrait prendre non pas midi par mais midi plus une seconde. Et il dit que c'est en principe quelque chose de philosophique. Et on a toujours lu ce genre de choses dans le travail de Poincaré, et il y en a plusieurs, où on le prend comme métaphore complètement isolée du monde, une espèce de Gedanken experiment qui n'a pas de rapport. Mais c'est évident maintenant pour nous que ce travail en philosophie était en fait un croisement entre philosophie et la technique. Et la technique où Poincaré lui-même était engagé d'une façon extrêmement, extrêmement claire pendant des années et des années. Il était même, en 1898, il est élu comme président du Bureau des longitudes. Donc on a une espèce de point ici entre la philosophie du temps. Et Poincaré était en pleine discussion avec ses amis polytechniciens, par exemple Auguste Calinon, et avec Andrade, sur la nature du temps. Et Calinon, par exemple, a même écrit des articles avec exactement le même titre que celui de Poincaré. Il a écrit sur la mesure du temps. Et c'était justement le problème de définir le temps dans un système physique par rapport aux choses qui peuvent être observées, au lieu d'avoir une idée de temps qui se basait sur l'absolu de Newton. Mais à cette époque, en 98, ça n'avait rien à voir avec la physique, ou la physique électrodynamique. Mais Poincaré s'est engagé aussi à ce moment sur ces questions de physique. Le problème pour Poincaré et Lorentz, c'était qu'il y avait deux possibilités. Soit les terres se bougeaient avec la Terre, c'était entraîné avec la Terre, soit ce ne l'était pas. Si c'était entraîné, si les terres étaient entraînées avec la Terre, ça devrait être possible de déplacer les terres, par exemple, avec l'eau. Mais Fizeau a montré que ça ne se produit pas, cet effet. Donc, si la Terre ne peut pas ramener les terres avec la planète, il faut que ce soit possible de mesurer la motion à travers les terres. Donc, il y avait des expériences comme l'expérience de Michelson et Michelson-Morley, où ils ont essayé de mesurer précisément le vent de l'éther en traversant l'éther. Mais lui aussi, il n'avait pas de résultat. Donc, il paraissait que l'éther n'était pas mesurables ni entraînables, pour ainsi dire. Et Poincaré a conclu qu'il y avait une éther, mais c'était une éther qui était rigide, comme Lorentz, que les choses devraient se contracter pour empêcher la possibilité de mesurer la traversée de l'éther. Mais Lorentz a introduit aussi cette idée du temps local, de transformation de T, pour que ces expériences seraient pas pourraient être expliquées. Mais Poincaré n'était pas du tout content du travail de Lorentz. Il trouvait que l'hypothèse de Lorentz que, par exemple, une règle devrait se contracter en traversant l'éther était explicable pour Poincaré parce que Lorentz disait que chaque électron devrait se contracter et les forces devrait contracter le bras de l'interféromètre, par exemple. Mais l'idée de changement de temps n'était pas basée sur une idée physique, c'était simplement une chose formelle, une chose de mathématique. Et Poincaré, en 1899, a calculé l'effet et il a trouvé que ça produirait un effet seulement de 3 milliards d'une seconde pour chaque kilomètre. Et pour lui, on pourrait se passer d'un effet qui était tellement petit. Ce qui est intéressant, c'est que Poincaré, en 1899, était complètement conscient que c'était un effet qu'on pouvait calculer. C'était un effet réel, mais réel est trop petit pour être un problème. Donc, il était content, autant qu'ingénieur, de simplement laisser cette idée à côté. Il aussi était engagé parce qu'il y avait une grande bataille entre Londres et Paris parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la distance de longitude entre Paris et Londres, entre les deux observatoires. des Anglais croyaient qu'il y avait moins de distance entre Paris et Londres que les Français, qui trouvaient qu'ils ne pouvaient pas même se mettre d'accord, même quand ils avaient répété l'expérience bras à bras, d'un Anglais et un Français dans l'Observatoire de Paris, un Anglais et un Français à Greenwich.
Ils étaient d'accord sur le fait qu'il y avait la même distance à l'aller et au retour.
En décembre 1900, par contre, Poincaré a été appelé pour présenter un article ou un papier à une conférence à l'honneur de Lorentz. Et il a repensé le problème et il s'est rendu compte que l'idée de Lorentz, que Poincaré n'aimait pas, l'idée de transformation du temps local, pourrait être expliqué si les deux télégrapheurs échangeaient des signaux à travers les terres. Et si les deux se déplaçaient dans les terres, le signal de lumière devrait rencontrer un vent de l'éther qui devrait ralentir le progrès de la lumière. Et il faut faire une correction pour cet effet. Si on le fait, on déduit précisément l'idée du temps local de Lorentz. Et maintenant, l'idée du temps de Lorentz est mise sur la même base que l'hypothèse de contraction de Lorentz, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui, physique qui était derrière les idées. Donc, maintenant, Poincaré aussi rassurait que l'idée de l'éther, même si ce n'est pas possible de l'observer, ce n'était pas qu'il pensait qu'on allait finalement trouver la motion à travers l'éther, mais que c'est une idée qui est productive du point de vue de produire des idées. Et comme Maxwell a découvert beaucoup en électrodynamique en pensant à l'éther, Poincaré maintenant a découvert la base physique du temps local en pensant à l'éther. Et c'est très important parce que il faut le souligner. Poincaré ne pensait pas qu'il c'était possible de trouver la motion à travers l'éther, mais il pensait que c'est une idée utile. Et pour Poincaré, tout se réduit finalement à cette question. Est-ce que ça nous aide, nous, pas Dieu et pas des anges, mais nous, à faire la physique et à organiser les phénomènes? Poincaré ne posait jamais des questions comme Einstein, en disant, par exemple, Einstein disait très souvent, je voudrais savoir les choix que Dieu avait au début de l'univers. Poincaré ne poserait jamais une question pareille. Pour lui, la physique, c'était pour nous. Donc, en 1900, en décembre, conférence à l'honneur de Lorentz, il y avait un triple croisement entre la technologie de coordination du temps et de synchronisation pour les longitudes, une question technique, la philosophie du temps pour éliminer l'idée des absolus et l'électrodynamique des corps mouvants. Donc, Poincaré, est-ce que Poincaré est newtonien? Non, il ne l'est pas. Il trouve qu'il y a des contractions, des objets qui traversent avec une vitesse qui s'approche à la limite de la vitesse de lumière. Il croit qu'il y a un temps local qui devrait être calculé à travers la pensée de l'éther. Il y avait beaucoup d'aspects où le travail de Poincaré dépassait la pensée newtonienne. Mais est-ce qu'il est einsteinien? Non plus, comme on voit dans un moment. Einstein commence le problème d'une façon complètement différente. Einstein commence avec des problèmes d'élucider ces idées de relativité à travers la symétrie. Il dit que si on a un phénomène, un aimant qui s'approche d'un conducteur, on peut produire un courant dans le conducteur. Mais il y a deux explications de ce phénomène. Si on prend le point de vue du conducteur et c'est l'aimant qui se bouge, on explique ça dans les termes suivants. On dit que le champ magnétique change autour du conducteur. Un champ magnétique qui change produit un champ électrique et un champ électrique fait bouger les charges dans le conducteur. Tandis que si on prend le point de vue de l'aimant et c'est le conducteur qui bouge, il n'y a pas de champ électrique du tout. Il y a simplement des charges qui se bougent dans un champ magnétique et ça force les charges à bouger. Donc, deux explications, un phénomène. Pour Einstein, c'était une explication de trop. Et il trouvait que le problème réside dans le problème de mesure du temps. Et il commence en disant, si on a, par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire par coordination du temps? On peut commencer avec une horloge mère qui distribue des signaux aux autres horloges. Et par exemple, si les signaux commencent à midi, et ça, on devrait régler ce montre ici à midi ou à 3 heures. Mais il dit que ça ne peut pas être raisonnable parce que l'horloge ici recevrait le signal beaucoup plus avant cette horloge-là. Donc, il faut avoir un système comme l'a proposé Poincaré. Einstein ne mentionne pas le travail de Poincaré, mais on prend en compte le fait que le signal prend une durée spécifique d'arrivée. En fait, un aller-retour, on divise par deux et on règle les montres selon le différentiel de différence de temps entre les horloges. Et en cette façon, ça ne dépend pas du placement de l'horloge mère. Et il dit, dans ce papier, il commence aussi avec ce que nous avons toujours lu comme métaphore abstraite. Il dit, un train arrive à 7 heures. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette phrase? On veut dire que la petite aiguille de ma montre indique 7 au même moment que le train arrive. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par le train arrive, par exemple, à une autre station à 7 heures si c'est éloigné de moi? En ce cas, il dit qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a une distance entre les deux et qu'il faut que le signal traverse cette distance. Mais à cette époque, à Berne, où Einstein était, il travaillait dans le bureau de brevets, il était juste en face de la gare où il y avait, à Berne, il venait d'installer des horloges coordonnées avec le centre télégraphe qui était relié à l'horloge mère à Berne, et il y avait dans chaque centre-ville des horloges mères comme ça qui dirigeaient des réseaux. Et c'est devenu à ce moment-là, dans les fins du 19e siècle, à Berne et partout, un peu en Europe, mais surtout en Suisse, toute une industrie de créer et de gérer des horloges coordonnées. Et c'était évident le problème. On le voyait sur tous les immeubles. Par exemple, à Genève, il y avait des immeubles avec 3 horloges. Il y avait l'heure de Paris, l'heure de Genève et l'heure de Berne. Et vous imaginez les problèmes qui pourraient résulter de ce genre de système de temps multiple partout dans la ville. Surtout à Berne, quand vous y allez, vous voyez plein d'horloges en même temps. S'ils ne sont pas d'accord sur l'heure et vous avez un train, ça peut être problématique. Et ça, c'est le même immeuble après l'unification de l'heure, avec des systèmes qui marchaient en réglant des horloges, avec des systèmes électriques. C'était même à la une dans les journaux de Berne quand ils ont installé un système électrique d'horloge qui c'était une révolution dans le temps. Ça, c'est là où habitait Einstein à l'époque, le Kramgasse. Et si on tourne à gauche, il passe dessous une de ces horloges qui était réglée à distance par les moyens électriques. Et il y avait tout un réseau à Berne comme ça. Einstein était là, dans le Kramgasse, et travaillait là, en face de la gare de Berne, l'ancienne gare de Berne. Et il connaissait très bien cette technologie parce que son père et son oncle avaient une fabrique qui faisait électrotechnique. Ils ont produit des choses, parmi lesquelles étaient des mètres qui mesuraient de flux électrique et qui pouvaient être employés justement comme horloge électrique. Et qui faisaient de la publicité. Il y avait même à cette époque, en 1904, des systèmes qui envoyaient des signaux d'ondes de radio pour régler des horloges à très grande distance ou pour les bateaux, par exemple, pour qu'ils puissent déterminer leur longitude pendant qu'il est en voyage. Et il y avait énormément de brevets qui se sont produits entre 1903 et 1906. Ça, je vous montre trois.
ça c'est un, de, vous voyez ici des systèmes de, d'horloges électriques qui sont réglés par l'horloge mère, et il y avait même des systèmes de radio qui étaient pris. Et le mi-mai 1905, Einstein, qui était en train de travailler sur les problèmes électrodynamiques des corps mouvants pendant 10 ans, juste depuis l'âge de 16 ans, était en train de marcher avec un de ses amis. Il a dit finalement, j'ai compris comment terminer le problème de relativité des corps électrodynamiques. Et on sait exactement où il était parce que, avec un raisonnement suivant, parce qu'il a dit que si vous regardez cette horloge-là à Murie, qui était l'annexe aristocrate de Berne, et Berne, centre Berne, donc il n'y a qu'un endroit où on peut voir ces deux horloges, et c'est exactement là. Et il a dit à son ami, si vous voulez régler ces horloges, il faut envoyer un signal électrodynamique et puis prendre en compte le fait que ça prend du temps pour y arriver. Et dans les semaines, ça c'est le seul horloge à Murie, circa 1905. Et c'était évident, mais quand même, qu'il y avait une différence importante entre... Alors, il y avait en commun avec Poincaré, ils avaient plus ou moins la même idée de coordination des horloges, d'éliminer le temps absolu, mais il y avait quand même une différence. Ça, c'était un schéma qui a été fait par un ami d'Einstein, Adler, qui était... bon, c'est une autre histoire. Et si on voit ça de près, on voit que Adler... qui à ce moment-là était plus sympathique, était plus soutenait plus le système de Lorentz probablement que celui d'Einstein. Mais quand même, vous voyez, il y a deux temps, T et tau, T et T prime, T et T prime, T et T prime, dans tous les systèmes, même son propre système, sauf le système d'Einstein. Et là, le fait qu'il n'y a qu'un T et il n'y avait rien d'autre, était le fait que pour Poincaré, il voulait toujours distinguer entre le temps vrai qui existait dans un référentiel qui était restant dans l'éther et tous les autres systèmes qui n'étaient qu'un temps apparent. Alors pour Poincaré, il voulait distinguer entre un temps vrai et les autres temps. Pour Einstein, il n'y avait pas de distinction de statut de réalité des temps différents. Tous les temps étaient équivalents et... ce n'est pas mon temps si mon temps diffère que le vôtre, on ne peut pas dire que le mien est vrai et votre apparent ou le contraire. Et c'était compris par beaucoup de monde qui ont lu l'article d'Einstein et qui ont parlé avec Einstein que ce n'était pas du tout une métaphore complètement abstraite parce que quand Adler a écrit... il discute, par exemple, des moyens complètement pratiques pour coordonner des horloges de train, par exemple. Il dit que il y a deux méthodes. On peut transférer avec un signal, par exemple un signal de lumière, ou on peut apporter des horloges. Et il dit la définition d'Einstein de synchronisation est une amélioration de ces systèmes. Et donc, le système d'Einstein était lu par Adler, par Cohen, quand c'était enseigné, par exemple, Poste et Télégraphe ici à Paris, ils ont dit, nous, vous voyez le système de coordination d'horloge que nous gérons ici à Paris, je vais vous expliquer comment Einstein nous apprend qu'il faut comprendre le système de fond. Et il y avait plein de livres sur la coordination du temps, je montre quelques illustrations. Et il y a même un des emplois de la Tour Eiffel, c'était une idée de Poincaré, d'employer la Tour Eiffel comme émetteur, comme antenne de temps pour distribuer le système sur toute l'Afrique, sur l'Amérique du Nord, etc., d'ici. Ça, c'est la station de radio qui existait à l'époque. Et Einstein... Et Poincaré allait, par exemple, de présenter une conférence chez des chercheurs de longitude, chez des philosophes, chez des physiciens, et il circulait entre ces trois chemins, pour ainsi dire. Et Einstein et Poincaré se sont rencontrés seulement une fois dans leur vie. Ils ont tous les deux parmi les plus grandes correspondances dans l'histoire de la science, dans n'importe quel sujet, n'importe quel temps. Mais ils n'ont même pas échangé une seule carte postale pendant toute leur vie. Et ils étaient ensemble à Solvay en 1911, et c'est très mal passé. Il y avait une discussion avec tous les grands physiciens du monde sur la nature des idées quantiques, surtout d'Einstein et Planck. Et Poincaré trouvait que ce n'était pas seulement faux, mais ça mettait en danger l'idée même de la physique, parce qu'il dit que si on n'a pas d'équation différentielle, si on n'a pas une explication causale et qui peut se développer à travers les équations, ce n'est même pas une loi. Il a dit et d'une contradiction de supposer que la lumière peut être des particules et les ondes, d'une contradiction comme ça, n'importe quelle conclusion on peut suivre, et c'était vraiment un danger non seulement mais à la lumière, mais à notre compréhension de la physique en général. Et Einstein, pour sa part, est parti en pensant que Lorentz, comme il a écrit à un ami, est un modèle de l'intelligence et de tact, c'est une œuvre d'art qui vit, dans mon opinion, c'est le plus intelligent, etc. Et Poincaré, par contre, était simplement négatif, et avec toute son intelligence, il a rien compris à ce qui se passait. Il y avait une seule discussion qui était entendue par Maurice de Broglie, et c'était le suivant. Poincaré à Einstein. Einstein, quelle mécanique vous employez? Et Einstein a répondu, aucune mécanique. Et de Broglie a dit, et ça apparaît à surprendre son interlocuteur. Surprendre, c'est le moindre qu'on peut dire, parce que pour Poincaré, l'idée même de la science, quand il parlait par exemple aux autres polytechniciens, qu'est-ce que nous avons ensemble, qu'est-ce que nous avons en commun? Il a dit, notre marque de fabrique, c'est la mécanique. La mécanique, c'est ce que nous avons comme méthode de comprendre le monde. Et par mécanique, il ne voulait pas dire la mécanique forcément newtonienne. Il était prêt à changer de la mécanique, comme il a fait avec le chaos, comme il a fait avec la nouvelle mécanique, comme il appelait du temps et de l'espace. Mais il fallait avoir une mécanique. Et c'est ce que Einstein n'a pas donné d'après lui. Donc, pour conclure, je voulais dire seulement que il y a dans les deux compréhensions du temps qu'avaient Einstein et Poincaré une indication de deux façons de comprendre le monde à travers la physique. Pour Einstein, il fallait avoir un système de représentation qui imitait les phénomènes. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau des phénomènes, le niveau de l'électrodynamique, par exemple, et s'il y a une symétrie dans les phénomènes, par exemple, qu'on ne peut pas distinguer entre un aimant qui s'approche d'un conducteur ou le contraire, il faut que ce même symétrie existe dans les représentations, dans notre théorie. Et pour Poincaré, ce n'était pas du tout ça. Les théories n'étaient pas là pour comprendre un monde caché, un monde nominal. Il n'y avait pas de ailleurs pour Poincaré, il n'y avait que notre monde. C'était un vrai chercheur du Troisième République, quelqu'un qui pensait qu'à la fin du jour, il n'y avait que nous. Et on peut choisir entre les théories. Les théories devraient produire pour nous des rapports vrais, comme il disait, entre les expériences. Mais l'idée qu'il fallait avoir des théories qui répétaient une réalité d'ailleurs était pour Poincaré pas du tout le but de la science. Donc, si pour Poincaré, il était utile d'avoir des terres pour que nous pouvons générer de nouvelles idées, pour que nous puissions comprendre le monde dans nos équations, c'est très bien de le faire. C'est pour Poincaré, c'était un peu comme si on demandait un charpentier, est-ce que vous avez besoin de marteau pour faire cette maison? Le charpentier pourrait dire, non, je pourrais me passer, mais pourquoi me passerait-il? Pourquoi? Pourquoi omettre? Pourquoi laisser à côté un outil tellement utile que marteau? Et pour Poincaré, les terres étaient utiles dans cette façon-là. Le fait qu'il n'y avait pas de symétrie dans les équations pour Poincaré
entre les deux explications, ou entre le temps vrai et le temps apparent, n'était pas un problème. Si on pouvait arriver au rapport vrai entre les observations, ça suffit. Donc il y a dans les deux sens, deux formes de modernisme dans la science. C'est pas que Einstein était révolutionnaire et Poincaré était réactionnaire. C'était que Poincaré voulait vraiment baser une physique qui était flexible, qui ouverte aux nouvelles idées, mais pour lui, c'était chercher des rapports vrais, chercher la simplicité et chercher l'utilité pour nous et seulement nous en organisant le monde. Et pour Einstein, c'était ailleurs ce qu'il voulait. Il voulait vraiment avoir une représentation d'une réalité qui était presque platonique, une réalité qui était donnée dans une façon, dans un autre niveau, si vous voulez, que le niveau de représentation. Donc, finalement, je dirais qu'on voit dans cette histoire de métaphore des télégrapheurs de longitude ou de train et de coordination des horloges, plus qu'une métaphore. On voit dans ces idées, dans ces expressions, l'intersection d'un monde technique fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On voit des questions philosophiques sur la nature des concepts en science et comment ces concepts devraient être définis et basés sur les opérations. Et finalement, on voit des problèmes de physique, en particulier l'idée d'avoir une électrodynamique qui pourrait répondre aux expériences qui viennent de se faire. En suivant l'idée du Moyen-Âge, en regardant en bas, on voit le ciel, en voyant dans le ciel, dans les abstractions, on voit aussi des choses concrètes du monde autour et en dehors de la philosophie. Merci.
Alors, nous allons commencer une discussion. Peut-être pour serrer les questions, pourrais-je dire qu'il me semble que ton exposé pose deux types de questions, disons des questions de type épistémologique à proprement parler et des questions autour de l'objet même que tu as pris comme exemple, mais ce n'est pas un simple exemple, qui est la question du temps. Donc on peut peut-être distinguer ces deux types de questions ou de problèmes. Alors, si je dois très rapidement résumer la thèse ou les thèses épistémologiques que tu as soutenues, les thèses qui portent sur la science et sur l'histoire des sciences, tu as opposé deux visions, une vision positiviste au départ, une vision antipositiviste, une vision qui privilégie l'observation et l'expérience d'un côté et une vision qui privilégie, disons, les théories, des changements de paradigme brusques comme à Lacune, et dans lesquels, au fond, il n'y a pas d'observation neutre, mais dans lesquels toutes les observations entrent dans des schèmes théoriques préexistants. Et il me semble que tu as montré que la théorie de la relativité restreinte pouvait être soumise à ces deux types de lectures, mais tu lui as substitué une troisième lecture, en quelque sorte, qui, en quelque sorte, renvoyait dos à dos les positivistes et les paradigmatistes ou les schématistes, etc. Et tu as montré qu'il fallait tenir compte non pas de deux grands types d'éléments qui seraient d'un côté les données observationnelles et d'un autre côté les théories, n'est-ce pas, qui se succéderaient comme les paradigmes cuniens, mais qu'il y avait au moins trois blocs, d'un côté des expériences, d'un autre côté des instruments techniques et d'autre part des théories, et que les rythmes n'étaient pas différents. Cela dit que dans le cas du temps, et notamment de la théorie de la relativité, nous avions une espèce de phénomènes d'histoire des sciences absolument exemplaires, dans lequel les trois rythmes se cristallisent et dans lesquels ils marchent de pair, puisqu'on a un grand problème dont tu as montré la complexité, un grand problème qui occupe la fin du XIXe siècle, qui est le problème de la coordination des horloges, posé par des raisons qui sont en partie économiques, les trains, les problèmes posés par la longitude d'un côté, des problèmes épistémologiques et les problèmes physiques de l'évolution propre de l'électrodynamique. Ça, c'est un aspect de la position épistémologique que tu as soutenue. Pour conclure, finalement, une autre question que tu as soulevée à propos de l'épistémologie, ou de la leçon épistémologique de cette histoire, qu'au fond, les positions respectives de Poincaré et d'Einstein n'étaient pas... nous renvoyaient à deux images de ce qu'est ou de ce que doit faire ou de ce que peut faire une bonne théorie scientifique. D'un côté, une théorie scientifique qui serait uniquement pour nous, en quelque sorte, et d'un autre côté, une théorie scientifique qui serait une théorie en soi, celle d'Einstein. Alors ça, c'est l'aspect épistémologique. Quant à l'aspect proprement sur le temps, tu as montré comment progressivement, pour ces trois types de raisons, poser la question de la simultanéité et comment ce problème a eu une histoire propre en électrodynamique une histoire qui semble indépendante mais qui se conjoint dans les théories de Poincaré et d'Einstein, l'histoire de la coordination technique des horloges. Alors, et en gros, pourquoi de ces deux points de vue, on a senti la nécessité, cette double nécessité d'éliminer les horloges absolues? Voilà. Bon, comme ça que je résumerai ce que j'ai compris. Alors, un point que je voudrais d'abord te poser pour que les choses soient bien claires, pour moi d'abord, et peut-être qu'elles le sont pour tout le monde. Poincaré et Einstein veulent éliminer les horloges absolues, nous sommes bien d'accord. Simplement, ils n'entendent pas la même chose par l'élimination des horloges absolues, si je comprends bien. C'est-à-dire que d'après Poincaré, il faut résoudre le problème, il faut résoudre techniquement un problème de telle sorte que si à 3 heures j'envoie mon signal et qu'il arrive à 3 heures et 1 minute à tel autre endroit, il faut que je règle mon horloge à 3 heures et 1 minute, mais il ne remet pas en question, si j'ai bien compris, que une minute plus tôt, le signal avait été envoyé du point A. C'est simplement qu'il sait bien qu'il n'y a pas d'autre moyen technique de coordonner les horloges que de calculer le temps de progression du signal. Alors que Einstein se passe complètement de l'idée d'une simultanéité absolue, indépendante du temps du signal. Est-ce que j'ai bien compris ?
Tout le résumé était, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'au dernier moment.
Alors, et justement.
La distinction à la fin, c'était que pour Poincaré, si deux horloges ne se déplacent pas dans les terres,
oui,
et on fait cette coordination, ces deux horloges sont simultanées. Et c'est un temps vrai. Si, par contre, on se déplaçait à travers les terres et on fait la coordination, ça semble qu'on fait exactement la même chose. On ne peut pas détecter les terres. Mais pour Poincaré, cette idée de simultanéité qui se fait en se déplaçant à travers les terres n'est qu'apparent et pas vrai. Et donc, pour Poincaré, il essaie de garder quand même le résidu, une espèce de trace d'un système de pensée où il y avait il y avait quelque chose d'absolu. Mais ce n'était pas absolu du point de vue pratique, c'est-à-dire que si nous, on est en train de bouger par rapport à l'éther, parce que nous suivons une trajet circulaire autour du Soleil, alors ce n'est pas possible que nous sommes restants à tout moment. Si nous n'arrivons, il est sûr qu'on ne pourrait jamais arriver à détecter le mouvement à travers l'éther. Pour Einstein, le fait qu'on peut détecter, on ne peut pas détecter le mouvement, veut dire qu'il faut abandonner l'éther.
On est d'accord.
C'est pour lui, c'était comme un technicien de brevet qui trouve une roue qui ne fonctionne pas dans une machine. Si ça ne fonctionne pas, il faut l'éliminer, simplement. Il n'y a pas de question. Pour Poincaré, ce n'était pas comme ça. L'idée était générative, était productrice.
Alors, j'ai une toute petite question, là, c'est un point d'information avant qu'on pose des problèmes plus généraux. Oui. La réponse, no mechanics, est-ce que ça, c'est lié au refus de l'éther?
Ça, c'était... mon interprétation de cet échange, c'était qu'il discutait l'idée des quantas de lumière,
oui,
au Conseil de Solvay en 1911. Et Einstein savait très bien, dès le départ, que sans proposition qu'il y a des quantas de lumière, que dans certaines circonstances, la lumière fonctionne comme
onde,
des particules, oui. Il savait très bien que ce n'était pas une théorie. Et il a dit à maintes reprises, ce n'est pas une théorie. Et pour lui, le fait que c'était provisoire, c'est ce qu'il veut dire par ce mot heuristique qu'il emploie.
D'accord. Ça n'a pas de réponse avec les résultats de 1905.
Et pour Poincaré, l'idée qu'on a un système sans un développement des équations différentielles qui se développent à travers le temps, dans un système causal qu'on peut... tracer et suivre, pour lui, c'est un danger pour l'idée même de la science.
Oui, mais parce que par ailleurs, on sait que Einstein ne renonce jamais au déterminisme causal. Donc c'est pour ça que ça m'a surpris, cette réponse. C'est pas lié.
Pour Einstein, ce n'est pas une théorie ultime. D'accord. Il sait que, et ça ne se passerait que dans les années après la guerre, 50 ans après, mais il a l'idée que la théorie ultime qu'on aura pour la lumière devrait produire à la fois les particules et les ondes. Et il sait bien qu'il n'a pas cette théorie.
D'accord.
Mais il sait que les phénomènes qu'on observe, par exemple l'effet photoélectrique, montrent que les ondes ne suffisent pas.
Très bien. Alors... une première question très générale sur la thèse épistémologique que tu soutiens. Est-ce que tu soutiens cette thèse épistémologique ou l'histoire des sciences en général ou sur ce cas particulier? C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'au fond, un même travail sur n'importe quelle grande révolution scientifique, hein, comme pour prendre un terme cunien, pourrait montrer qu'il y a toujours ces trois types de facteurs. D'une part, qu'il y a des rythmes différents pour chacun de ces facteurs, mais qu'une révolution scientifique est marquée par le fait que ces trois types de causalité historique se rencontrent.
Je crois que la physique, c'est pas évident que la physique marche comme la biologie, par exemple, et le rapport entre les expérimentateurs et ceux qui font des instruments et les théories en biologie sont évidemment très différents. Il n'y a pas une longue histoire de 150 ans de biologie théorique dans le même sens. Il y a des éléments qui sont théoriques, certainement. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de théorie dans la biologie, mais il n'y a pas une communauté de personnes qui s'identifient comme des théoriciens de même ordre, de même quantité qu'il y a en physique. Il y a pas des et il y avait plusieurs efforts de créer de biologie théorique, par exemple, parmi des études des populations ou autour de l'informatique ou autour de théorie d'évolution. Mais les histoires sont il y a des différents genres de sciences. Les sciences ne sont pas tous pareilles. Cela dit, je crois que Je crois qu'il faut examiner les techniques et les pratiques sans prendre comme point de départ que tout se passe en bloc. Ça, je crois, est très général. Et que quand on voit, par exemple, des théories, soit en biologie, soit en chimie, soit en physique, en astronomie, je crois que penser que tout change comme un changement de gestalt nous empêche de voir beaucoup de dynamique de ce qui se passe dans le développement des sciences. Si, par exemple, comme dans plusieurs domaines de sciences, des expérimentateurs et des chercheurs sont plus ou moins unifiés dans un groupe, il faut quand même regarder quand il y a un changement, quelles sont les techniques, quels sont les objets qui sont échangés. Et donc, je crois que ça, c'est une question qui est très importante de voir. Qu'est-ce qu'il y a en commun et qu'est-ce qu'il y a qui, et comment est-ce que ces éléments en commun changent à travers le temps? Par exemple, si on voit que en formant la physique, la biophysique, on peut tracer quels éléments commencent par être joints du côté. Qu'est-ce qu'il y a qui vient du côté physique? Qu'est-ce qu'il y a qui vient du côté biologie? Quelles sont les méthodes de combinaison de ces idées, de ces techniques, de ces expériences? Et comment ça change à travers le temps? Si on commence par croire que les changements se produisent d'un seul coup et d'un changement de gestalt, on peut pas voir le développement à travers le temps. On est empêché de voir l'idée de gestalt est fondée sur l'idée qu'il n'y a pas de développement du temps à travers le temps. Donc, je crois que ce qui s'est passé dans l'histoire de la philosophie, de la science, je crois que c'est en essayant de lutter contre une idée qui était très problématique, l'idée qu'il y avait une langue protocole de neutre de langue, on a changé de l'autre côté à l'autre extrême, tellement qu'on a empêché la possibilité de voir qu'il y a que les frontières entre des domaines, entre des disciplines, entre des développements peuvent être quelque chose qui est épais, comme des frontières réelles, comme des régions de frontières, qui ne sont pas des lignes mathématiques comme on a sur les cartes, entre l'Allemagne, la France, en Alsace. On trouve des choses qui ne changent pas dans un millimètre. Ça change à travers une région avec une dynamique de langue, de pratique, de comportement que les anthropologues et sociologues connaissent très bien. Et mon idée, c'est vraiment d'accepter que dans la science, c'est au moins aussi compliqué que ça. Mm-hmm. Et qu'entre la théorie newtonienne et la théorie einsteinienne, il y a une région qui a une dynamique et que notre choix n'est pas langue atomique par rapport à langue complète. On a quand même la possibilité d'avoir, comme nous apprennent les linguistes anthropologues, des dynamiques beaucoup plus nuancées que ça, avec des jargons, des créoles, des choses qui changent entre les deux. Comme, par exemple, on peut avoir entre deux langues naturelles, un créole qui se forme avec syntaxe d'une langue et sémantique d'une autre langue, ou l'inverse, on a aussi la chimie physique et la physique chimique. On a des combinaisons assez compliquées de rapports entre disciplines et emplois de langage scientifique.
Dans le même ordre d'idées, après je vais passer la parole à d'autres, il m'était venu, en t'entendant aujourd'hui, en lisant ton livre, et puis en t'entendant l'autre jour à une conférence, l'idée que tu souhaites visiblement introduire ou réintroduire le poids de l'histoire des techniques, dans l'histoire des sciences, d'une certaine manière, c'est-à-dire montrer ou même de l'histoire tout court, mm-hmm. pas simplement l'histoire des techniques, l'histoire même politique, l'histoire technique, dans l'histoire des sciences, comme si le dialogue entre théorie et expérience, oui, qui est le dialogue traditionnel auquel nous sommes habitués,
et peut-être c'est peut-être beaucoup plus intéressant qu'une simple et trop simplifiée version d'une forme très naïve du marxisme, par exemple.
Oui, c'est ce que j'allais poser.
Il y avait un certain moment où Hessen, par exemple, pour des raisons très très compliquées d'ailleurs, voulait dire qu'on peut comprendre la physique de Newton parce qu'il y avait des besoins de guerre, des canons pour l'Empire britannique. Mais c'est une espèce de saut il y a presque rien d'échange entre les deux niveaux. Il y a un niveau de base, on a besoin des canons, et il y a une superstructure, la théorie détaillée des corps gravitationnels, et c'est un peu de magie entre les deux, de génération magique. Mais je crois que c'est possible d'avoir des échanges, par exemple, des concepts, des outils, des choses beaucoup plus intéressantes du point de vue épistémologique. Par exemple, l'idée de coordination des horloges en échangeant un signal électromagnétique aller-retour, ça faisait partie du travail quotidien du bureau des longitudes, ça faisait partie quotidien du travail en physique, et ça faisait partie d'une idée qui était publiée par Poincaré dans la revue de métaphysique et de morale. Mmh. Donc, il y a trois chemins qui échangent. Donc, pour dire, ce que je veux éviter, c'est l'idée que finalement, ce n'est que la technologie, ou finalement, c'est vraiment la physique, ou finalement, ce n'est que la philosophie. Pour moi, c'est un peu comme poser la question, est-ce qu'une place, la place de l'étoile, est vraiment dans la rue, l'avenue Foch, l'avenue Kléber? C'est une intersection, donc c'est défini par être dans cette intersection.
Oui.
Et c'est ce genre d'idée qui peut se généraliser, je crois, et non seulement entre expérience et théorie, mais aussi entre technique ou entre autre chose dans le monde culturel et historique plus grand.
Non, tu as compris ma question. Ma question était de savoir si, donc, délaissant le dialogue stérile entre positiviste et antipositiviste, expérience et théorie, tu réintroduisais quelque chose comme une infrastructure de type marxiste, mais tu me réponds, en fait, oui, sauf que ce n'est pas une infrastructure, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie. Tu réintroduis un niveau qui est l'histoire tout court, et en particulier l'histoire des techniques, mais il n'y a pas, elle ne joue pas le rôle de dernière instance, comme on dit dans le marxisme. Il n'y a pas d'instance, il n'y a pas d'instance dernière. Il y a des temporalités qui peuvent se conjoindre à certains moments, même s'il y a trois grands niveaux de causalité historique différente.
C'est un peu pourquoi je pense que l'idée qu'il y a une dernière instance, c'est un peu l'idée de, je ne sais pas comment dire ça en français, mais de unmoved prime mover d'Aristote.
Oui, le premier moteur non mu.
Le premier moteur
non mu.
Non mu. Donc, c'est une idée métaphysique que finalement, il y a un terme ultime qui n'est pas dépendant sur quoi que ce soit et qui pousse tout le reste. Et je crois que cette idée réapparaît aussi dans notre langue historique ou historiographique, quand nous parlons de contexte. Parce que quand on parle du contexte, on a souvent l'idée qu'il y a une réalité, un bain, pour ainsi dire, comme disent les physiciens, un bain de chaleur, par exemple, qui existe, dans lequel existe quelque chose d'autre qui est expliqué ou changé par l'extérieur. Mais je crois que très souvent dans la science, ce n'est pas si simple. C'est pas évident qu'il y a systématiquement une couche qui explique tout le reste. Ça serait très simple si c'était vrai. Mais je crois que, surtout dans l'histoire des sciences, on a passé 50 ans à un débat entre des internalistes et des externalistes qui étaient très peu cachés, le débat entre marxisme et anti-marxisme. Et finalement, ce débat, je crois, est un peu stérile. Au moins dans le sens qui est trop simplifié. Mais la conséquence, ce n'est pas d'abandonner l'idée de comprendre la science avec le reste du monde technique et philosophique. C'est par contre, c'est de l'étudier avec beaucoup plus de précision, avec une précision qui demande quelles sont les choses échangées entre des sous-cultures du monde examiné, quels sont les modes d'expression, l'emploi du langage, l'emploi des instruments, l'emploi des concepts, et de demander une explication précise sur ces choses-là. Et puis, dans cette façon, je crois qu'on peut comprendre ces intersections qui lient la science à la philosophie, par exemple.
Est-ce que tu as d'autres exemples de révolutions scientifiques importantes dans lesquelles on voit aussi clairement que tu l'as montré le poids de soit de l'histoire des techniques, soit d'une révolution d'instruments, de mesures?
Quelque chose de pareil peut-être pourrait se trouver dans l'histoire de l'informatique et cybernétique, tout ça dans les années 50-60, où on voit par exemple pour von Neumann et d'autres. Von Neumann, enfin, si on commence à faire une narration de cette histoire, ça devient compliqué, mais von Neumann a modélisé l'ordinateur programmable sur les idées d'organes mental et mémoire, input, output, processing, etc. Et aussi, l'ordinateur est très vite devenu quelque chose pour modéliser la façon de penser, enfin, dans les sciences cognitives. De psychologie cognitive. Et c'est aussi un mélange des ingénieurs électriques, des logiciens, des psychologues et des philosophes. Et avec une concentration et un échange d'idées entre les deux où il y avait énormément de choses en commun, mais qui faisaient une espèce de croisement. Et je crois que dans le futur, on verra ce moment de création d'ordinateurs programmables qui peut être programmé être sinon une révolution scientifique, une révolution à travers plusieurs champs et disciplines.
Merci. Alors, Stéphanie.
Moi, c'est une simple question de fait parce que je n'y connais rien. Je voulais savoir s'il existait une alternative au procédé de synchronisation des horloges dont vous avez parlé, qui aurait consisté non pas à ce que une horloge, par exemple, à Londres, envoie un signal à Paris et que l'horloge de Paris se règle sur celle de Londres, mais que les horloges de Paris et les horloges de Londres, grâce aux observatoires astronomiques qui sont sur place, chacune se règle sur un référentiel unique en fait, qui serait celui des étoiles, ou bien est-ce que c'est encore plus compliqué de faire ça, ou bien est-ce que faire ça suppose qu'on ait un référentiel temporel déjà simplement pour faire l'observation astronomique?
Voilà. Oui, en fait, c'était un moyen très employé à coordonner, enfin, normalement ce qu'on fait pour régler une montre, une horloge, c'est de voir midi ou les ombres, après les ombres et de l'angle du soleil. Donc, on emploie, et plus précisément, on peut avoir, par exemple, l'occlusion d'une étoile par la Lune, par exemple, ou une autre... le problème se répète dans ce domaine une fois qu'on commence à penser au fait que la lumière prend du temps à arriver. Donc, si on prend, par exemple, l'occlusion d'une lune de Jupiter, on fait l'observation à Paris et à Washington, ça prend c'est quand même, il y a un trajet un peu différent pour arriver aux deux endroits, donc ça revient à ces problèmes aussi. Mais historiquement, oui, absolument, les horloges sont réglées étaient réglées sur les effets astronomiques.
Qu'il y aurait eu une sorte de télescopage entre ces deux types de techniques empiriques.
Oui.
Continuer dans la question qui vient d'être posée par Stéphanie Dupuy, est-ce que dans ces questions de synchronisation, par exemple, les désaccords entre les Anglais et les Français dans leurs observatoires, est-ce qu'il n'y avait pas un certain rôle joué par le problème de l'équation personnelle, et est-ce que comment est-ce qu'ils essayaient de le résoudre?
C'est une très bonne question. L'occasion personnelle, comme vous savez, peut-être, est le fait que chaque observateur a des caractéristiques pour répondre à une stimulation. Par exemple, si on avait un flash, une lumière qui s'allume dans cette chambre, et nous essayons de taper sur une clé télégraphe, au même moment, on trouvera que... Enfin, il y a des différences entre nous et que c'est un peu systématique. Donc, on trouverait par exemple, que Claude Debroux répond dans une dixième de seconde et que je réponds typiquement une dixième de seconde plus lentement que lui. Et si ça se passe comme ça, on peut le prendre en compte en faisant des observations astronomiques. Et c'était très important dans tous les observatoires, d'avoir cette occasion personnelle pour chaque observateur. Il fallait corriger des observations, qui étaient souvent des observations de temps, à travers cette occasion. Et cette occasion personnelle. Mais l'importance dans notre histoire de ce soir est le suivant. C'est qu'en 1998, en janvier, quand Poincaré a écrit pour la première fois dans la revue de métaphysique et de morale l'idée que la simultanéité peut être définie seulement à travers une méthode d'échange de signal, il a dit finalement ça va pas, ce sera certainement pas un effet très important pour nous dans la réalité de tous les jours en science, parce qu'il y a des autres effets qui sont beaucoup plus larges. Et ce qu'il a en vue, certainement, sans question, c'est que, par exemple, il a essayé de mesurer des échanges de signal qui étaient quelques millièmes d'une seconde, et que la réponse humaine à une stimulation est typiquement de l'ordre d'un dixième d'une seconde. Donc, c'était pour Poincaré, qui en fait savait très bien des difficultés avec la mesure du temps, pratique, c'était une partie de ce monde. Et ce problème d'élimination de l'erreur qui est causée de l'équation personnelle était derrière le développement de ce qui était appelé la méthode américaine qui voudrait éliminer l'élément personnel de taper sur une clé télégraphique quand quelque chose arrive. Par exemple, quand le signal du temps arrive de l'Europe au Brésil, ça arrive sur un miroir, une petite glace, sur laquelle est monté un électroaimant. Et le signal fait tourner un tout petit peu ce miroir. Et une lumière qui vient d'une lampe, d'une flamme, et réfléchir sur un mur éloigné. Et l'opérateur étudie le petit trace, le petit point de lumière dans sa petite maison de 3 mètres par 3 mètres. Et il tape sur une clé de télégraphe quand il voit que ce petit point de lumière bouge. Mais c'est évident, très problématique d'avoir une mesure exacte. Il y a des tremblements, il y a des tremblements de main, de lumière, de miroir, de tout. Donc, éliminer ce problème d'équation personnelle était très important et central à cette histoire.
Merci. J'ai beaucoup apprécié la manière dont vous êtes passé d'un modèle à 2 couches à un modèle à 3 couches lorsque vous introduisez l'instrument. L'instrument est en soi quand même quelque chose d'assez compliqué dans lequel on pourrait à son tour peut-être trouver des nuances, des sous-couches, etc. À propos des instruments, vous avez mentionné une expérience qui est celle de Michelson. Et il est assez amusant, même si ça n'est qu'anecdotique, de donner les impressions de Michelson en 1903 et en 1920. En 1903, Michelson écrit dans un de ses ouvrages, je crois que c'est Light and Waves ou quelque chose comme ça, écrit la chose suivante. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous nous sommes lancés dans la construction de cet instrument. Malheureusement, le résultat de l'expérience a été totalement négatif, ça ne nous a absolument rien donné. Je ne regrette rien, dit-il, parce que ça nous a permis de construire un instrument incomparable. Le même Michelson, vers 1922, consacre un chapitre complet à la relativité. Vous trouverez, je pense, si vous êtes là pendant 2 ou 3 mois, vous trouverez les 2 ouvrages correspondants à la bibliothèque de physique. Un autre point, le suivant, c'est les histoires de chemin de fer. Vous avez parlé des faisceaux horaires à travers la Russie ou à travers les États-Unis. Mais point n'est besoin d'aller si loin, en France. En France, de quand date l'unification du système horaire en France? Ça date des chemins de fer. Je me rappelle avoir lu, il n'y a pas si longtemps, que c'est le temps du chemin de fer qui a fait l'unification, tout simplement parce que entre l'extrême ouest de la France à l'époque de Poincaré et l'extrême est, c'est-à-dire entre Nancy et Brest, vous avez plus d'une demi-heure. Si vous réglez votre horloge avec le soleil au zénith, vous avez des problèmes avec les horaires de chemin de fer. Donc, il y avait déjà un problème à ce moment-là.
Oui, ces 3 points sont très intéressants, tous les 3. Je commence avec le premier. Absolument, vous avez raison que les instruments ne sont pas homogènes entre eux. Et en fait, la plupart de mon travail est sur le contraste entre les différentes traditions d'instruments. Le seul fait que tout ce que je peux montrer avec ce schéma trop schématisé, c'est qu'il ne faut pas prendre trop facilement l'idée que les instruments ne sont que quelque chose qui répond à la théorie, qu'il y a des communautés, et c'est pluriel, communauté avec S, de gens qui font les instruments, il ne faut pas prendre toujours les instruments comme simple réification de théorie, comme certains ont dit, par exemple, mais qu'il y a quelque chose qui les remet dans une forme beaucoup plus intéressante que ça. Par exemple, il y a une tradition d'instruments en physique qui produit les images. Et il y a toute une épistémologie d'instruments qui produisent des images qui contrastent vivement avec la tradition d'instruments qui produisent des statistiques, des comptes, qui comptent. Et ça, c'est seulement pour illustrer votre observation que les instruments ne devront pas être pris comme homogènes. Deuxièmement, vous avez mentionné Michelson, et vous avez absolument raison là aussi, et Michelson une fois a dit que « it was the greatest failure of my life », que je n'ai pas pu trouver le mouvement à travers les terres. Mais il a gagné le premier prix Nobel pour les États-Unis. C'était quand même pas mal comme... s'il faut échouer, c'est bien d'échouer comme ça. Et aussi qu'après, il a commencé à travailler avec la relativité. Mais pour lui, c'était... c'était l'instrument le plus exact, le plus précis qui ait jamais existé, qui pourrait mesurer une fraction de longueur de l'onde de lumière. Et troisième, c'était...
Chemin de fer,
oui. Il y a une histoire intéressante que j'ai trouvée très amusante entre les États-Unis et la France avec les horloges coordonnées et les trains. C'était le suivant. Dans mon université à Harvard, ils ont construit dans l'observatoire une espèce de business qui fonctionnait à vendre du temps. Ils ont gagné pas mal d'argent pour la science d'astronomie en vendant le temps à travers des lignes de télégraphe qu'ils ont achetées au chemin de fer qui partait de Boston. Il y avait un grand concours entre Harvard et la ville de New York pour contrôler la plupart de la Nouvelle-Angleterre. Et c'était une espèce de réseau qui se montait. Et puis après, Yale a commencé son propre réseau. Et donc, dans un certain sens, Harvard a a rendu l'observatoire dans une espèce de business. En France, c'était exactement le contraire qui s'est produit. Il y avait, de l'Observatoire de Paris, ils ont lancé des signaux aussi avec les lignes télégraphiques jusque à Paris pour changer la ville en observatoire. Ils voulaient que chaque mairie, au début, et puis à travers tout le reste de la France, serait convertie dans une espèce d'extension de la méthode qui existait à l'intérieur de l'observatoire. Les expériences avec des coordinations des horloges, avec des systèmes électriques, a commencé à l'intérieur de l'observatoire de Paris même. Et ils voulaient élargir ce système pour ramasser la ville. Et puis, il y avait la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les chemins de fer? Et les astronomes ont conclu que ce serait dangereux de lancer les signaux directement au chemin de fer parce que si jamais il ne se produisait un accident, il serait coupable. Et le tout, c'était le plus important pour eux, c'est de ne pas être coupable pour quoi que ce soit dans le système pratique des chemins de fer. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est de construire des horloges autour des gares principales à Paris pour que les conducteurs du train verraient ces horloges coordonnées à l'Observatoire de Paris et ils devraient imiter ces horloges avec une espèce de système de réflexion qui les mettrait dans les trains, puis à travers les lignes de train dans les autres villes, puis il y aurait une autre imitation qui suivrait. Donc, ce qui se passait en France, c'était justement, puisqu'ils ne voulaient pas s'engager dans la vie des trains directement, mais seulement par imitation, et en construisant une espèce de mur transparent entre la vie de l'observatoire et la vie pratique, et tandis que les Américains ont voulu justement transformer l'observatoire dans une extension, pour ainsi dire, du système, du réseau des trains.
Une question au fond. Ça marche.
Ça va comme ça. Excusez-moi. Je voudrais prendre la parole parce que j'étais président du conseil du bureau de longitude, directeur de l'Observatoire de Paris, astrophysique, de pas mal de petites choses comme ça, où les problèmes dont vous avez parlé aujourd'hui se sont posés, effectivement. Et je voudrais dire que vraiment, vous avez décrit ces problèmes d'une façon tout à fait remarquable. Et je tenais à vous dire ma satisfaction de vous avoir entendu parler sur ces problèmes-là. Maintenant, j'ajouterai que je crois que tous les problèmes qui existent dans ce domaine-là, maintenant, on peut les résoudre d'une façon logique, simple, théorique, qui n'a pas encore été utilisée, mais qui décrit ce qui existe, aussi bien le vivant que les galaxies et les astres, de la même façon. Et bon, et ça n'est pas du tout utilisé par les physiciens, par les biologistes, par les astronomes, on peut se demander pourquoi. Mais enfin, maintenant, j'ai 90 ans, j'ai perdu toute ma mémoire au cours de la canicule d'il y a 3 ans. Donc, j'essaye de rédiger une théorie claire et simple. C'est pas très simple, mais je tenais à vous féliciter grandement pour la façon dont vous avez expliqué toutes ces questions. Moi, j'y adhère entièrement. Et même, je dois dire, avec tout le travail que j'ai fait au bureau de longitude, jamais j'aurais été capable de décrire les choses comme vous l'avez dites. C'est vraiment remarquable. Je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie.
D'autres interventions, questions? Oui. David.
Bonjour. Bon, vous avez remarqué que l'éther est pour Poincaré avant tout une hypothèse utile. Mais c'est Poincaré même qui a beaucoup de problèmes à l'accepter comme hypothèse utile. Par exemple, déjà en 1904, c'est à Saint-Louis, au congrès de Saint-Louis, il envisage une sorte de possibilité de dépasser l'hypothèse de l'éther. Et en tout cas, il dit l'éther est utile, mais il est quand même provisoire, c'est-à-dire son utilité va nécessairement changer. Alors, est-ce que c'est possible d'envisager quels critères pour Poincaré pourraient nous... Quel type de critères nous ferait peut-être abandonner l'éther?
C'est intéressant, vers la fin de sa vie, c'est-à-dire en 1900, il est mort en 1912, mais les dernières choses qu'il a écrites sur le problème de la nouvelle mécanique, il ne parle presque pas de l'éther. Donc pour lui, ce n'était pas une chose... je crois que pour lui, le critère de l'utilité, c'était la générativité de l'idée. Et pour, dans l'histoire de la physique, Maxwell, par exemple, a déduit ses pensées sur ce qui est appelé le courant de déplacement, était déduit par Maxwell en pensant à un modèle spécifique et visualisable de l'éther. Et c'est ça vraiment son contribution. Le reste des équations de Maxwell étaient déjà connues avant, mais cette idée de courant de déplacement l'a permis de déduire les ondes électromagnétiques, donc son plus grande contribution à l'électrodynamique. Et je crois que quand Poincaré lui-même a pu justifier, a pu donner une base compréhensible pour lui du temps local, c'était pour lui quelque chose de très important comme pour l'éther. Et finalement, pour lui, je crois, l'éther était les états de l'idée de par exemple, des équations différentielles référaient à l'état de l'éther. Et je crois que ça donnait pour lui une espèce d'intuition sur le comportement des équations différentielles. Et c'est aussi assez typique pour Poincaré. Par exemple, quand il parle des mathématiques, il sait très bien que il y a plein de choses dans la mathématique moderne, par exemple des fonctions qui sont 1 sur les rationnels et 0 sur les irrationnels, qui ne sont pas visualisables du tout. Mais il est pour, dans l'enseignement et dans la mathématique, il sympathise énormément pour les gens qui emploient une intuition visuelle. Mais il n'est pas parmi ceux, par exemple, comme des intuitionnistes, qui pensent que tout ce qui n'est pas visuel sorte du raisonnable en mathématiques. Il est très conscient et il écrit très clairement qu'il connaît de très grands mathématiciens, il les cite, qui n'emploient pas de méthode visuelle et pas d'intuition de cet ordre. Quand même, quand il décrit Klein, par exemple, en Allemagne, qui résout des problèmes des singularités sur les surfaces de Riemann en employant des modèles de courant et des potentiels qui viennent d'une intuition complètement visuelle et physique, il le trouve très, très convaincant dans un certain sens, très utile. Et c'est pour lui, je crois, les deux problèmes sont assez proches. C'est-à-dire que il peut imaginer un monde sans l'éther. C'est pas quelque chose de ontologique de base pour lui. C'est pas ni et il n'est pas, par exemple, il ne croit pas que ce soit quelque chose qu'il faut garder comme extension de notre intuition dans une espèce de pensée kantienne là-dessus. C'est pas comme causalité ou espace ou temps, où on ne peut pas penser des questions en physique sans l'éther. Il y en a des physiciens qui pensent quelque chose comme ça. Et je crois que, par exemple, pour Lorentz, pour beaucoup d'autres, ils seraient absolument contre l'abandon de l'éther. Pour Poincaré, je crois que ça dépend de la situation réelle où on se trouve dans un certain moment en physique. Et pour lui, je crois, vers la fin du siècle, il trouvait que l'éther donnait des intuitions productives pour avancer le sujet de la physique. Et mais c'était une chose contingente. C'était pas, c'était conjoncturel dans un certain sens. C'est pas a priori. C'est pas quelque chose d'a priori. C'est pas un concept sans lequel des autres concepts ne peuvent pas être pensés. Donc, je crois que il faut pas mettre Poincaré, Lorentz, Abraham, Cohen, des autres qui travaillaient avec les terres dans le même camp. Poincaré est beaucoup plus pragmatiste vis-à-vis des terres que beaucoup d'autres.
Y a-t-il d'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à remercier Peter, d'une part pour sa conférence de ce soir, d'autre part pour l'ensemble de son séjour à Paris. Tu peux annoncer ta dernière...
Le dernier, c'est jeudi,
5h30. Jeudi, 5h30, c'est en salle des conférences au 46.
Terrain vague et terrain...
Terrain vague et terre sauvage, je crois. Voilà. Et ça parle de quoi, terrain vague et terre sauvage?
C'est une étude des terrains contaminés dans une façon très toxique des matériaux nucléaires qui deviennent des terrains qui sont repris hors de l'usage humain pour 12 000 ans, pour l'éternité, effectivement. Et quel rapport ont ces terrains avec les terrains qui sont enlevés de l'usage humain parce qu'ils sont tellement purs qu'il ne faut pas y aller pour les détruire. Et je voudrais penser le rapport, ce que ça veut dire avoir des terrains non usables par des humains pour notre identité, comme pour notre soi scientifique, pour notre existence comme, et notre rapport avec la nature.
Très bien. Alors donc... Premier rendez-vous jeudi 17h30, salle des conférences, pour la dernière conférence de Peter Galison lors de son séjour à Paris. Prochain lundi de la philosophie, le 9 janvier, lundi 9 janvier, on continue sur le temps, mais d'un point de vue tout à fait différent. C'est une conférence de métaphysique faite par Frédéric Ferraud qui s'appellera, c'est la question du quadridimensionnalisme, et donc il opposera les théories métaphysiques contemporaines tridimensionnaliste et quadridimensionnaliste sur la nature des corps. Voilà, mais d'un point de vue métaphysique. Et c'est le 9 janvier, lundi à 5h. D'ici là, bonnes vacances à tous, bonne fête à tous et merci encore à Peter.